Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h hein, dans La France bouge et nous avons une heure, comme chaque jour, pour vous faire découvrir des talents parce que c'est vous qui, à votre échelle, petite ou grande d'ailleurs, faites changer le monde et nous sommes là pour le faire savoir et mettre en avant eh bien, vos initiatives, vos projets, vos bonnes idées. Pour ça, elle est à mes côtés, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Et notre coach cette semaine, c'est Clara Audry, associée chez Cap Horn, le fonds d'investissement. Bonjour Clara.
Bonjour Raphaël, bonjour Elisabeth.
Bonjour Clara.
Pas simple, dites-moi, de se lancer pendant la crise. Et pourtant, vous allez voir que certains osent le faire. Nous sommes en ligne avec Agathe, Agathe Chadla et Tori. Bonjour Agathe.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, cofondatrice de la marque Pomponne. Vous vous êtes lancée dans le maquillage green and clean, vert et propre. Votre campagne de crowdfunding est lancée depuis un mois maintenant. Elle a été retardée évidemment à cause de la crise, mais là, ça cartonne. Pourtant, le marché est déjà très, très pris. Alors, comment est-ce que vous allez vous distinguer? C'est parti, top chrono. Vous connaissez la musique. Vous avez 1 minute 30.
Alors, bonjour à toutes. Effectivement, avec mon associé Charline, on a lancé Pomponne et on a fait plusieurs constats qui nous ont menés à créer Pomponne. Le premier, c'est qu'on se tourne tous vers le consommer mieux pour notre alimentation, nos soins visage, corps. Mais on s'est rendu compte qu'on venait tout gâcher avec le maquillage. Le second, c'est que le maquillage a du pouvoir, celui de nous faire sentir plus belle, plus en confiance, mais qu'il peut aussi abîmer. On pense par exemple aux lèvres sèches que l'on peut avoir après l'application d'un rouge à lèvres mat. Alors, on s'est dit qu'il fallait faire bouger ce secteur, qui est finalement le grand oublié de la vague de la clean beauty. Et comme on est toutes les deux pharmaciennes avec Charline, en fait, on a voulu ajouter une action soin au maquillage pour le rendre à la fois actif et efficace. Mais on a aussi voulu donc qu'il soit de bonne composition, à savoir donc naturel et clean, pour qu'on puisse enfin consommer mieux jusque dans notre trousse à maquillage, et tout ça sans compromis sur la performance. Pour commencer, avec Pomponne, on lance un rouge à lèvres. Oui. Il est hydratant, il a un fini semi-mat, il est formulé avec 95 et jusqu'à 100% d'ingrédients d'origine naturelle, même selon les teintes. Il n'y a aucun ingrédient controversé dans sa formule, et niveau performance, il va tenir une demi-journée. Comme on veut qu'il convienne à tout le monde, il est aussi vegan, il est fabriqué en France et point de vue éco-responsabilité, on a choisi un pack 100% recyclable. En fait, ce rouge à lèvres, on l'a co-créé avec notre communauté sur Instagram pour arriver au rouge à lèvres idéal qui répond aux attentes des femmes et qui coche toutes les cases.
Eh bien, écoutez, les cases sont cochées. On va passer aux questions, si vous le voulez bien, tout de suite, parce que je suis sûre que notre coach en a pour vous, Clara Audry.
Oui, alors c'est super hein, que de nouvelles marques émergent. Moi, la question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'on est dans le plus clean ou dans le 100% clean? Autrement dit, est-ce qu'on améliore les choses, mais la perfection n'est pas encore là, ou est-ce qu'on est déjà dans quelque chose de complètement clean? Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les composants et les matières premières, en quoi elles diffèrent des formulations habituelles des grandes marques?
Qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qu'on met à la place, finalement?
Voilà.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est un grand sujet. La perfection n'existe pas, bien sûr, mais on essaie de faire les meilleurs choix avec Charline pour la composition de notre rouge à lèvres. Et on part du principe que si on arrive à formuler 100 aujourd'hui, 100 certains ingrédients, pourquoi les mettre dedans? Donc par exemple, on enlève tous les dérivés issus de la pétrochimie, on enlève tous ces actifs qui peuvent être controversés, en fait, aussi bien pour la santé que pour l'environnement. Des actifs qui vont être très peu biodégradables, par exemple, ou qui vont être suspectés d'être perturbateurs endocriniens. Et donc, en fait, on est associé avec un formulateur qui nous aide dans cette démarche pour arriver à faire une formule qui est mieux pour la santé, pour l'environnement, mais qui reste peut-être aussi perfectible, bien sûr, puisque l'avancée dans ce domaine est constante.
Elisabeth, vous vous situez comment par rapport à vos concurrents? Il y en a quelques-uns hein, qui tentent de percer ce marché du rouge à lèvres face aux géants que l'on connaît tous. Qu'avez-vous de plus à, voilà, vous êtes propre, vous tenez une demi-journée, mais comment vous allez vous vendre?
Tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, ce qui nous tenait à cœur avec Charline, comme on est toutes les deux pharmaciennes, c'est vraiment sur ce marché du maquillage naturel d'ajouter une dimension soin, cette action qui vraiment nous différencie du rouge à lèvres classique et qui va être vraiment testée cliniquement et prendre soin des lèvres, avoir cette dimension hydratante avec des actifs que l'on prend le soin de sélectionner. On pense vraiment ce maquillage comme un véritable soin cosmétique et c'est ce qui fait la différence, une formule vraiment unique sur le marché que l'on formule de zéro, de la page blanche en fait.
Alors pour l'instant, on est au rouge à lèvres, mais évidemment, vous avez d'autres projets. Je crois qu'il y a un mascara aussi qui est en préparation. Vous voulez véritablement vous imposer sur le marché comme une nouvelle marque 100% digitale, verte et propre.
Exactement. On a vraiment envie d'aller plus loin et de réinventer toute la routine du maquillage finalement pour aller vers cet élan de consommer mieux jusque dans, avec tous nos produits, toute notre routine. Ce mascara est en cours de co-création avec notre communauté. Il est d'ailleurs en train d'être finalisé, il sortira d'ici la fin de l'année. Et on réfléchit même déjà à un maquillage pour le teint, dont le sondage est en ligne sur notre site pompon-makeup.com pour récolter l'avis des femmes. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui, n'hésitez pas à nous donner votre avis. On sera ravis de récolter le maximum de témoignages pour encore une fois répondre au mieux aux attentes des femmes, en fait.
Ça cartonne hein, pour l'instant, 300% de l'objectif atteint en 24 heures. Et donc, vous avez fixé un nouvel objectif ?
Oui, tout à fait. On est hyper heureuse avec Charline de cet accueil. Et du coup, on a un nouvel objectif qui nous permettra d'aller plus loin, donc de financer des tests cliniques plus poussés et notamment d'investir en recherche et développement. Parce que quand on formule donc une formule à partir de zéro, ça implique des coûts et beaucoup de recherche, beaucoup d'essais, beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que si on peut aller encore plus loin sur cette campagne, ce sera vraiment super pour Pompon.
Elisabeth,
combien coûte votre rouge à lèvres ? Vous vous situez comment là aussi par rapport aux concurrents ?
Oui, alors c'est un prix qu'on a voulu fixer le plus juste. Il est à 26 euros. On a voulu un prix accessible pour pouvoir pomponner le maximum de sourires. C'est aussi un prix, on vous parlait de co-création, qu'on a testé auprès des pomponnettes, comme on les appelle, qui nous suivent sur nos réseaux. Et voilà, donc on se situe un petit peu au milieu, on va dire. On va avoir des marques de maquillage professionnelles dans les 20 euros mais, et des marques de luxe qui peuvent aller dans les 40 euros et même jusqu'à 60 euros pour certaines marques. Donc on voulait avoir un prix juste, mais c'est vrai que comme nos choix en termes d'écologie, en termes d'actifs soins sont onéreux, c'était dur pour nous d'arriver à trouver ce prix voilà, au plus juste et qui nous permette aussi de pouvoir s'y retrouver pour Pompon, bien sûr.
Pompon, donc la nouvelle marque qui veut s'imposer sur le marché français et pourquoi pas étranger, évidemment. La campagne de crowdfunding est en cours jusqu'au 17 juin. Vous nous donnerez évidemment de vos nouvelles ici dans La France Bouge.
Il est 13h15.
Restez avec nous, on ne se promène pas, c'est vrai, avec un mètre dans notre poche. Alors comment savoir, tiens, si on respecte la bonne distance de sécurité ? La solution, un bracelet inventé par Ubisolution, mais pas seulement. À tout de suite.
Il est 13h18, c'est l'heure, Raphaël, de retrouver Elisabeth Assayek pour sa solution.
Alors, je vous ai parlé du bracelet, mais il y a aussi le masque connecté, Elisabeth. Oui. Mettre à disposition ces masques réutilisables, lavables, savoir quand le masque est en fin de vie, c'est ce que propose justement Ubisolution. Encore une fois, une entreprise qui s'est adaptée à la crise.
Oui, parce qu'Ubisolution, ça existe depuis 10 ans. Et c'est une entreprise qui a étoffé son offre pendant la crise. À la base, elle est spécialisée dans les puces RFID, hein, tout ce qui est traçage. Et ils ont mis au point un système pour compter le nombre de lavages des draps d'hôpitaux. Ça, c'est un peu leur cœur de métier. La crise est passée par là et ils ont eu l'idée d'adapter cette technologie aux masques en tissu. Les masques en tissu que n'utilisent pas forcément les personnes qui travaillent dans les hôpitaux doivent être lavés, mais un certain nombre de fois pour rester efficaces. Au-delà d'un certain nombre, ça ne sert plus à rien. Ainsi, avec cette idée, ils ont mis au point une application sur smartphone. On peut savoir exactement combien de fois on a lavé son masque. Vous l'avez compris, c'est une solution qui s'adresse surtout aux hôpitaux, aux cliniques qui utilisent les masques en grand nombre. Et cette solution permet de remplacer sur un mois 3000 masques jetables par 100 masques lavables. Bonjour Fabrice Zera.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG d'Ubisolution. À l'origine, 50% de votre activité a lieu dans l'hôtellerie, mais aussi dans les parcs d'attractions et dans le milieu hospitalier. Comment vous aussi, vous vous êtes adapté à la crise ?
On a pris cette crise assez difficilement au départ, parce qu'on voyait une grosse partie de notre chiffre d'affaires en danger. Donc on a une expertise très forte sur les hôpitaux, où on met ces puces RFID sur tous les draps des hôpitaux de Paris notamment, et ça nous permet de réduire les stocks et contrôler le nombre de lavages. Donc on a vu la problématique du masque, où on avait un comparatif entre le jetable et le réutilisable. Donc on a développé par notre expérience des hôpitaux une application complète adressée aux industriels, qui est ce masque intelligent qui est le plus économique, écologique et le plus sûr du marché.
Alors qu'a-t-il de différent et comment ça marche ?
Alors, on met une puce RFID sur chaque masque. Donc ça s'adresse aux industriels. Aujourd'hui, ils peuvent donner des... ils ne sont pas obligés de donner des masques à leurs employés, mais ils sont obligés de les entretenir s'ils le donnent. Il n'y a aucun contrôle sur le nombre... Oui, il vaut mieux en donner, ça c'est certain. Il n'y a aucun contrôle sur le nombre de lavages. Donc nous, on met ces puces. On a développé des partenariats avec des blanchisseurs industriels qui viennent collecter, contrôler ces masques en masse et écarter ceux qui ont le nombre de lavages dépassé, et renvoyer, rapporter les masques nettoyés, désinfectés et sûrs.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, hein, je me projette, un changement de couleur du masque en fonction effectivement du nombre de fois qu'il a été porté ?
Non, nous c'est quand il passe devant un lecteur, on a une alerte automatique qui nous dit que ce masque a dépassé le nombre de lavages. Ça revient presque au même, parce que tout est automatisé.
Donc énormément d'économies pour les hôpitaux, si on envisage cette solution globale à l'échelle d'un hôpital entier.
Alors, on a plus d'exemples sur des industriels. Là, les simulations qu'on a faites entre lavables et réutilisables avec cette technologie, en gros, on est sur 150 000 euros d'investissement sur 8 mois avec du jetable. Avec la solution complète, on est quasiment à 50% d'économie.
Donc, 50% d'économie. Là, depuis que vous avez imaginé cette solution, vous avez déjà eu des contrats, des contacts, des industriels ont fait appel à vous ?
Alors, on est en train de signer les premiers projets. Ça a pris un peu de temps parce qu'on est avec des industriels avec des contraintes achats assez fortes. On a une très forte demande. Il y a eu la pénurie du 11 mai où tout le monde voulait absolument... uniquement un masque. Oui. Là maintenant, ils comprennent qu'il faut optimiser ces masques pour ne pas être sur des investissements à fond perdu. Donc nous, on apporte des solutions pour pouvoir économiser ces investissements.
Encore un bel exemple, hein, Clara Audry, notre coach de pivot dans nos startups et dans nos entreprises.
Tout à fait, tout à fait. Et la question que je me pose, c'est pour aller plus loin, est-ce qu'il y aurait d'autres secteurs ? Peut-être que vous pourriez adresser au-delà du milieu hospitalier, je pense à l'éducation nationale, à d'autres secteurs aussi stratégiques où ça va être important dans les mois qui suivent d'avoir des solutions viables et les moins chères possibles, j'imagine.
On a vraiment des contacts avec tout industriel, collectivité, police, et même on échange beaucoup avec la direction générale des entreprises. Qui a bien compris que notre solution était la plus sûre du marché.
Et on la découvre, je le précise, votre solution en ce moment sur europe1.fr pour ceux qui nous suivent évidemment sur les réseaux sociaux.
Voilà.
Vous avez aussi, je vous ai coupé parce que c'était en train de défiler, donc oui. Je voulais surtout pas qu'on loupe pour voir ce à quoi ça ressemblait. Dites-moi, j'ai parlé tout à l'heure des bracelets, vous nous en dites un mot ?
Voilà, donc c'est avec la technologie Bluetooth qui est la même que l'application Stop Covid. Hein. Donc on met des bracelets sur chaque opérateur et c'est pour rappeler la distanciation sociale. Donc on s'adresse vraiment aux industriels, aux usines, où il faut, dès qu'un opérateur s'approche de moins d'un mètre de l'autre, on envoie une alerte automatiquement pour rappeler. Donc le bracelet va vibrer ou émettre un son. C'est vraiment pour... C'est pour aider.
Pour aider à respecter cette distanciation sociale dont on ne se rend pas forcément compte. Hein, même quand on est en entreprise, on se met à parler avec les uns, les autres ou une personne en pleine chaîne de montage et hop, et la distanciation est rompue. Ce sont des belles idées, hein, Raphaël. Hein, là
très
encore, des
idées.
Entreprises qui se sont adaptées à la crise avec ce masque et ce bracelet.
Oui, et qui innovent et c'est probablement des produits qui vont perdurer, hein, puisque nous ne savons pas évidemment ce que va devenir cette épidémie, mais en tout cas, ce sont des innovations et c'est vrai que c'est intéressant de de les mettre à la une. C'est ce qu'on fait ici dans La Solution avec vous, Elisabeth, tous les jours sur Europe 1.
Il est 13h25.
Europe 1.
Et on va rester ensemble, on va aussi parler innovation. Vous allez voir que les choses sont en train de changer, notamment depuis la création de l'appli Stop Covid, la plus téléchargée ces dernières 48 heures. On en parle et on parle aussi des alternatives. À tout de suite.
Dans la France Bouge cet après-midi, on vous parle dans le dossier du jour de l'application, vous le disiez Raphaël, la plus téléchargée ces dernières 48 heures, Stop Covid.
Oui, vous faites peut-être d'ailleurs partie des Français qui ont volontairement choisi de la télécharger, cette application. C'est vrai qu'elle a fait couler beaucoup d'encre, mais ça y est, elle fonctionne depuis mardi. Alors on va commencer tout de suite par voir comment, avec vous Elisabeth, puisque... Oui. Vous l'avez téléchargé.
J'ai téléchargé. Au début, j'ai cherché Stop Covid, mais en fait, c'est Stop Covid France. C'est important de le préciser. L'inscription, elle est très rapide. Il y a trois étapes, en gros. Il faut d'abord enclencher le Bluetooth de votre téléphone, parce que c'est ce qui va permettre de détecter les autres téléphones équipés du Bluetooth à proximité de vous. Ensuite, la deuxième étape, ils disent « je reste informé ». Grâce à cela, la personne pourrait être prévenue directement si elle a été en contact avec une personne atteinte du Covid-19. Et l'étape 3, c'est « je protège mes proches et les autres ». C'est la partie où, en cas de test positif au Covid-19, c'est-à-dire que si on vous alerte, comme quoi vous avez une personne autour de vous qui est positive, on vous incite à vous faire tester et à ce moment-là, il faudra le signaler sur l'application.
Bon, il ne s'est rien passé depuis que vous l'avez téléchargé.
Non, tout va bien. Rien. Autour de nous, là, apparemment, bon. Il ne se passe pas. Il n'y a rien. Vous êtes tous négatifs, pour l'instant.
C'est une bonne nouvelle. Il existe d'autres applis qui ressemblent effectivement à Stop Covid France et qui fonctionnent aussi. Bonjour Christophe Mollet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'agence web ITSS et vous aussi, vous êtes le fondateur de l'agence Corona App. C'est une appli sur laquelle vous avez commencé à travailler un peu avant, puisque vous l'avez lancée le 11 mars, pour lutter, là encore, contre la propagation du virus. Elle ressemble à Stop Covid France ?
Oui, tout à fait. Donc nous, on a lancé cette application il y a 3 mois environ. Donc avant, en fait, on parle pas mal de Stop Covid et de ces applications de géolocalisation. Et effectivement, dans le principe, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Stop Covid.
Ouais, l'objectif, c'était justement de nous dire si on avait été en contact avec des personnes qui étaient malades.
Exactement, sur le même principe. La seule différence, c'est une différence technologique, c'est que nous, au lieu d'utiliser le Bluetooth, on était parti sur l'utilisation de la puce GPS pour géocaliser les utilisateurs. C'est une petite différence technologique.
Donc on retrace, grâce à cette géolocalisation, le parcours finalement pour voir si oui ou non on est passé à côté de quelqu'un qui potentiellement a été malade.
Tout à fait, c'est exactement ça. Et nos données sont, comme sur Stop Covid, supprimées au bout de 14 jours, puisqu'on n'a pas besoin de conserver les données au-delà de cette date.
Vous nous disiez en préparant l'émission que vous pensiez à supprimer l'application, parce que vous dites finalement ça fait double emploi avec Stop Covid.
Exactement. Alors nous, en fait, on n'est pas dans une démarche traditionnelle, on va dire, d'entreprise privée avec d'autres entreprises privées. Le but, quand on a lancé cette application, c'était une démarche citoyenne, puisque à l'époque, on n'en parlait pas encore énormément. Il n'y avait pas d'application sur le... jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on devait être les premiers à en parler il y a 3 mois. Il ne faut pas qu'il y ait de doublons d'applications, puisque le principe de ces applications, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs pour que ça fonctionne. Tout le monde utilise l'application. Donc, si on a 2 ou 3 applications, on va séparer donc ces utilisateurs en 2 ou 3, et donc ça va être moins efficace. Donc nous, on ne va évidemment pas continuer, puisque l'État français a choisi donc Stop Covid. Donc on va rediriger nos utilisateurs vers Stop Covid.
Clara Audry, notre coach, a une question pour vous.
Justement, c'était l'une de mes questions, c'était est-ce que, en fait, pour que le système fonctionne d'un point de vue macro, on peut avoir plusieurs acteurs ? Donc apparemment non, c'est-à-dire que vous n'avez plus opéré depuis le 11 mars, mais là vous allez devoir, entre guillemets, rallier Stop Covid, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Si vous voulez, les données, on peut pas vraiment partager les données entre 2 applications. Donc soit on utilise une application, soit on utilise l'autre, mais on peut pas utiliser 2 en même temps.
Il n'y a pas possibilité d'agréger les données.
Non.
Vous avez tenté au début, avant que Stop Covid France soit choisi, vous avez fait partie de, entre guillemets, de l'appel d'offres.
Alors oui, en fait, nous, il y avait des appels à projets qui avaient été effectués par lancé tout à fait par le ministère des Armées et un autre par donc le secrétaire d'État chargé au numérique qui est Cédric Haut. Et donc on avait fait tout un dossier qu'on leur avait envoyé, mais malheureusement il est toujours en cours d'analyse de notre côté, donc j'imagine qu'on n'a pas été sélectionné ou que c'est passé à la trappe, mais effectivement on avait envoyé notre application, on avait essayé de se faire connaître auprès des pouvoirs publics, voilà, mais on n'a pas eu de retour.
En tout cas l'intention est bonne et vous aviez lancé ça le 11 mars, donc les choses sont allées assez vite. Vous restez avec nous parce qu'il existe d'autres options comme celle que vous développez, docteur Denis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé maladiecoronavirus.fr. Vous avez d'ailleurs été référencé par le ministère de la Santé et votre appli reste active. Je crois que 50 000 personnes la téléchargent encore chaque jour, c'est ça ?
C'est ça. Alors, c'est pas un téléchargement, c'est une connexion parce que c'est un site internet en fait. Mais oui, on approche les 9 millions d'utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, la consultation continue.
Oui, alors on se connaît, Fabrice Denis, vous étiez venu nous parler de SmokeCheck, qui est un de vos bébés, hein, si j'ose dire. Là, aujourd'hui, comment est-ce que vous avez finalement opéré le pivot ? C'était une évidence pour vous, parce que vous êtes oncologue ?
Absolument. Alors l'évidence, elle est venue finalement au moment de l'arrivée de la première vague, c'est-à-dire le passage de stade 2 à stade 3 épidémique, où on a senti avec quelques camarades médecins qu'il y allait probablement y avoir une saturation des appels vers le 15 parce que beaucoup de patients ou supposés avoir le Covid allaient appeler le 15 et finalement les urgences vraies pouvaient passer après. Et donc on a décidé de faire un site pour orienter les patients suspects de Covid vers le médecin généraliste, une téléconsultation ou le SAMU. Et donc au moment où on commençait à réfléchir à créer ces algorithmes, on a été contacté par plusieurs équipes de l'Institut Pasteur et du ministère de la Santé pour faire un grand groupe de travail national pour établir des algorithmes d'orientation des patients.
Ouais, vous et donc dites ce c'est groupe c'est une boussole en fait.
Ah, c'est vraiment une boussole, voilà, qui permettait et permet encore en cas de symptômes de savoir ce que l'on doit faire. Et évidemment orienté au mieux en fonction des signes de gravité, en évitant des personnes avec des symptômes graves de rester à la maison, et par contre des personnes qui ont des petits symptômes d'appeler le 15 inutilement.
Clara Audry ?
Oui, donc on voit bien la zone de triage virtuelle en fait que vous créez via cette application, et je trouve ça très pertinent. Peut-être une première question sur donc vous êtes associé à des établissements de santé pour penser cette application. Est-ce que vous êtes aussi associé à eux pour conquérir des utilisateurs ou comment vous faites connaître en fait pour que les gens pensent à vous
l'utiliser ?
Alors
en fait. Effectivement, la communication, elle s'est faite non pas par l'intermédiaire des établissements de santé, mais par l'intermédiaire d'une alliance digitale que l'on a créée avec plusieurs acteurs comme DocaPost, AG2R, Malakoff, Alliance, etc. On a été rejoints très vite par un groupe d'assureurs, etc. Et finalement, la communication, elle s'est faite par cet intermédiaire, les médias, bien sûr, mais aussi les clients, en fait, de ces différentes assurances et mutuelles.
Très bien. Et peut-être une deuxième question pour... on pense au monde d'après également. Et on voit bien l'intérêt que pourrait avoir une telle application pour les urgences, tout simplement, puisqu'on sait que les urgences sont souvent saturées de cas plus ou moins graves et malheureusement n'ont pas toujours un traitement adapté en conséquence. Et donc, est-ce que vous pensez à l'après-Covid ?
Ah bah évidemment, parce que il y a eu deux éléments qui se sont finalement révélés. C'est l'usage des téléconsultations qui était très marginal auparavant et qui a totalement explosé et d'ailleurs en partie grâce au site, hein, puisque pratiquement deux tiers des utilisateurs étaient orientés vers des consultations de médecine générale ou des téléconsultations. Donc ça a contribué à les faire connaître, ces téléconsultations. Et bien sûr, on doit imaginer l'après avec... des applications qui permettraient de faire un triage assez global de est-ce que je dois aller aux urgences pour tel ou tel symptôme ou bien simplement avoir une consultation de médecine générale, ce qui est un outil important de triage, effectivement.
D'autant, Elisabeth, que quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que ce soit connexion ou téléchargement, ça fonctionne, hein, ça parle
fonctionne,
aux gens.
Ça fonctionne, hein, alors que c'est sur la base du volontariat, rappelons-le. Hier, 24 heures après le lancement, cette application Stop Covid France se hissait déjà en tête des classements sur l'Apple Store et le Play Store avec plus de 600 000 téléchargement au compteur.
Merci à Christophe Mollet et Fabrice Denis d'avoir été avec nous. La France bouge, continue.
Il est 13h37.
Europe 1.
Restez avec nous, vous allez voir que la France se bouge et qu'elle se bouge à tous les niveaux pour nous protéger au maximum et nous aider à dépister les malades. À tout de suite.
Cet après-midi dans La France bouge, on vous parle du traçage, du triage des patients avec l'application Stop Covid, mais pas seulement Raphaël.
Oui, il y a les applis pour le grand public, mais vous allez voir qu'il y a aussi des outils à destination des médecins. Et c'est vrai que c'est important parce que ce sont eux qui font les remontées de terrain. Bonjour Anne-Laure Coury.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes la directrice de l'offre de soins de l'assurance maladie. Vous avez mis en place, vous, la plateforme Contact Covid. C'est un outil très utile parce que c'est lui, effectivement, qui permet de faire le lien.
Oui, c'est celui qui permet de faire le lien entre les médecins généralistes de ville, les 55 000 médecins généralistes de ville qui prennent en charge les patients malades du Covid et leurs familles, et nous, assurance maladie, qui sommes mobilisés en fait pour les aider à tracer les chaînes de contamination. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand il y avait le confinement, évidemment les chaînes de contamination ont été cassées, mais maintenant qu'on déconfine, il faut qu'on procède autrement, il faut qu'on brise ces chaînes de contamination en identifiant, en testant et en isolant tous les patients et les personnes de leur entourage qui auraient pu être contaminées.
Alors comment ça marche COVID, justement, voilà. Contact Covid, pour arriver à casser cette chaîne?
Alors c'est très simple, les médecins qui prennent en charge un patient contaminé par le Covid indiquent dans notre portail sécurisé les informations qui sont nécessaires pour remonter les chaînes de transmission. Donc ils vont saisir le nom, prénom, numéro de sécu et les coordonnées du patient. Et nous, Assurance Maladie, avec nos 6500 agents qui ont été mobilisés pour ce travail spécifique d'enquête sanitaire, on va appeler ce patient et on va retracer avec lui l'ensemble des personnes avec qui il a été en contact rapproché au moment où il était contagieux. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un voisin qui est passé donner un coup de main pour faire des travaux à la maison, vous voyez. Mmh. Et nous, ensuite, on appelle toutes ces personnes dites contacts pour les informer qu'elles ont été en contact avec une personne qui a été contaminée. Et on les appelle, pardon.
Oui, vous dites c'est efficace. La preuve, on a pu par exemple comme ça identifier des cas dans l'abattoir de Fleury-les-Aubrais.
Par exemple, mais de manière très concrète aussi, c'est partout sur le territoire, parce que les 55 000 médecins généralistes de ville, ils sont partout, c'est eux qui reçoivent les patients. Et nous, derrière, on appelle les patients et on appelle les personnes contacts pour leur dire qu'est-ce qui va se passer, pour leur dire qu'il faut qu'elles se fassent diagnostiquer, parce qu'elles ne savaient pas nécessairement que leur voisin qui est passé était malade, pour leur dire de se confiner, parce qu'il ne faut pas qu'elles contaminent d'autres personnes à leur tour. Et donc oui, ça marche bien, on a une bonne adhésion des généralistes, de nos équipes, et on a le sentiment que la très grande majorité des personnes qu'on contacte comprennent la démarche et l'importance du dispositif pour contrôler l'épidémie.
Oui, on s'aperçoit qu'il y a des dispositifs vraiment complémentaires, Clara Audry.
Oui, tout à fait. Et je pense notamment au dossier médical partagé. Est-ce que vous l'utilisez également de manière à partager les données sur les patients entre les médecins de ville, les établissements hospitaliers peut-être, voire les cliniques privées?
Alors, pour travailler sur les chaînes de contamination, on n'utilise pas le dossier médical partagé. Hein. Là, on est vraiment sur un portail spécifique, sécurisé, qu'on a créé en quelques semaines, spécifiquement pour coordonner le travail entre les médecins, nous et les agences régionales de santé. Le dossier médical partagé, il sert dans le quotidien du travail des patients, des médecins lorsqu'ils soignent leurs patients et qu'ils ont besoin de savoir effectivement ce qui s'est passé à l'hôpital. Mais c'est vraiment deux choses très différentes.
On s'aperçoit qu'à tous les étages, Elisabeth, finalement, il y a des plateformes, des outils qui sont à notre disposition. Je pense par exemple au label qui existe pour tracer des clients dans les hôtels. Là, pour le coup, on est sur les professionnels du tourisme.
Oui, ça s'appelle Covid-Free, F-R-E-E. C'est le premier label collaboratif et indépendant des professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme. C'est une façon de montrer qu'ils s'engagent dans la lutte contre la propagation du virus. Par exemple, lorsqu'un client observe un comportement à risque sur les gestes barrières et ou sur les recommandations sanitaires liées au Covid-19, il alerte l'équipe de Covid-Free qui règle ensuite le problème avec l'établissement en question. Le Covid-Free s'adapte également aux règles sanitaires liées à chaque type d'établissement qui reçoit du public, que ce soit un restaurant, un hôtel, un gîte ou autre.
C'est vrai que les moyens sont en train de se multiplier, se démultiplier en France. On voit apparaître aussi une nouvelle application mobile contre le Covid-19. C'est vous qui l'avez déployée. Jean-Yves Ingéa, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous nous entendez bien ?
Oui, très bien.
Bon, président d'Aeropolis, qui est une start-up hébergée au Village by CA. C'est une plateforme de gestion de risque que vous vendez aux entreprises et aux collectivités. Et vous avez décidé donc de déployer finalement ce nouveau système. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Et on le voit sur Europe1.fr.
Oui, c'est un système qui est déployé depuis déjà plusieurs années. Et il y a eu une ville en particulier avec qui on travaille depuis maintenant 4 ans. Qui est la ville d'Anoul dans les Vosges, donc vraiment dans la zone Grand Est, et on a pu voir qu'elle a été particulièrement touchée. Et avec cette ville, on a décidé d'ouvrir l'application à la population.
D'accord.
Alors que depuis 4 ans, elle est principalement ouverte au personnel municipal.
Et qu'est-ce que ça a changé, justement, cette ouverture à la population ?
Alors la ville, la commune, a pu ouvrir des services, de nouveaux services pour la population, qu'on a choisi avec la municipalité et qu'on a construit avec elle sur la plateforme.
Comme par exemple,
il y a eu la possibilité de s'auto-diagnostiquer pour le Covid, donc de répondre à des questions sur une série de symptômes. Donc le questionnaire, il peut se faire soit via l'application, soit l'application va pouvoir renvoyer vers les questionnaires qui existent, et vous en avez parlé tout à l'heure, maladie coronavirus, avec le questionnaire de l'Alliance Digitale qui fonctionne très bien. Et à l'issue de ce questionnaire, la ville va tout simplement demander à la personne si elle a besoin d'aide, si elle a besoin d'une assistance. Et là, il y a une mise en relation avec la personne et on peut lui proposer de l'aider pour la rediriger vers des professionnels de santé. Bien, ça peut être d'autres types de services, comme par exemple de la livraison de plateaux repas à domicile.
Oui. Donc, vous prenez en compte l'isolement pour apporter un plus, finalement. Et vous avez fait, vous aussi, pivoter votre modèle pour vous adapter à cette crise. On voit que, finalement, aujourd'hui, on a plusieurs étages à cette fusée, puisque vous nous disiez on renvoie vers d'autres plateformes. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement complémentaire.
Oui, c'est très complémentaire. Et surtout, c'est une approche qui va être dépendante de la volonté de la commune, donc de la volonté du local. L'approche ne va pas être nationale. La réponse va être en tenant compte des spécificités du fonctionnement d'une collectivité en particulier. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une plateforme qui soit suffisamment modulaire pour pouvoir venir ajouter le service qui va bien, que ce soit un service pour de l'assistance psychologique, un questionnaire Covid, un service d'assistance repas, des choses comme ça.
Et vous avez cette agilité aujourd'hui au sein d'Aeropolis. Clara Audry, notre coach.
Non, je trouve ça intéressant de prendre l'angle local. Ça permet notamment de prendre en compte les aspects comme la démographie et donc de voir si la population sera ou pas encline à utiliser l'application. Après, en effet, l'autodiagnostic, je pense, a ses limites. Et donc, peut-être une question sur l'étape d'après, une fois que la personne a rempli son questionnaire, comment elle va être mise en relation avec les bonnes personnes ? Est-ce que finalement vous désengorgez le 15 ? Enfin, quels sont les mécanismes de communication concrètement ?
Au niveau de la communication, ça se fait à deux niveaux. D'abord en amont, avant même de l'utilisation de l'application, ce qu'on a réalisé avec la mairie, c'est de mettre des QR codes pour pouvoir télécharger l'application à plusieurs endroits dans la ville, notamment des cabinets médicaux par exemple, ou des pharmacies, ou des points de commerce. Donc les gens savent que même s'ils sont isolés, ils se sont confinés chez eux, ils ne sont pas seuls, il y a des moyens qui sont mis à leur disposition sans pour autant devoir se déplacer ou bien engorger des numéros d'appel. Et donc via l'application, il y a une partie d'autonomie, donc je m'auto-diagnostique ou je fais appel au tel service ou j'interroge la plateforme sur telle ou telle problématique. Mais il y a des moments où l'application a ses limites. Et là, effectivement, il y a de l'humain qui va être enclenché. Donc, il faut pouvoir contacter la personne, éventuellement l'appeler, ou il y a un chat dans l'application, on peut chatter avec elle, échanger avec elle, et la rediriger vers ça peut être un médecin traitant, en fonction des cas, ça peut être un médecin traitant. Ça peut être, donc là, dans la ville d'Anoul, il y a eu des volontaires pour faire de l'assistance psychologique. Ou bien ça va être solliciter évidemment l'hospitalisation.
Il y a plusieurs options possibles évidemment une fois que c'est téléchargé. Elisabeth, au sein de l'entreprise, il y a aussi une appli française qui permet à chaque salarié d'alerter en cas de risque.
Oui, cette appli s'appelle WAW Compliance, W-A-W, je ne sais pas si je le prononce bien, Compliance, qui a mis en place en quelques jours une solution de gestion du Covid-19. Les collaborateurs déclarent à tout moment s'ils sont à risque. C'est pour l'entreprise, hein, ça coûte 1 euro par mois par salarié.
Merci à tous d'avoir participé à ce dossier aujourd'hui dans La France Bouge. On continue, évidemment, jusqu'à 14h.
Et il est 13h50.
Europe 1.
Et comme chaque jour, on va vous donner un coup de main. À tout de suite.
Dernière partie de l'émission avec le coup de main de La France Bouge. D'ailleurs, si vous avez une question pour nos experts, écrivez-nous e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Et votre dossier sera dans les mains de Nathalie Carré, chargée de mission entrepreneuriat CCI France. Et mains expertes, évidemment. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Juste pour le plaisir de vous entendre rire, mais c'est vrai, vous êtes une experte. Et on va aujourd'hui s'intéresser au cas de Nadine Brialon qui est en ligne avec nous. Bonjour Nadine.
Bonjour Raphaël, bonjour Nathalie.
On est ravis de vous recevoir, fondatrice de 3 desserts graphiques. Vous êtes basée à Lyon, vous avez créé votre entreprise en 2016. Quelle est la problématique que vous avez aujourd'hui avec la crise du coronavirus?
Alors, toute notre activité s'est arrêtée avec le confinement. 3DG, c'est 3 activités autour de l'impression 3D alimentaire, de la R&D innovation avec la machine impressionnante, de la distribution de machines avec la dédicace et puis des services innovants événementiels B2B. Et bientôt, nous allons lancer du B2C à la rentrée de septembre. Et ma question concerne l'activité R&D.
Oui,
nous avons fini notre premier prototype et nous sommes en phase d'industrialisation. La fin de la R&D, ça veut dire peu de chiffre d'affaires et pas de masse salariale, donc on a eu peu d'aide, mais on en a eu. Nous avons le soutien de la BPI, de notre banque et de la région, mais il nous manque un industriel et un financier qui vont nous aider sur saisir cette opportunité qui est le marché de la 3D alimentaire. Donc la 3D alimentaire, ça permet de... Dans notre cas, c'est une poche à douille numérique qui va empêcher tous les troubles musculo-squelettiques, qui va favoriser tout ce qui est circuit court, zéro gaspillage, tout ce qui est les nouvelles techniques de production à la commande.
Et qu'on voit, je le précise, hein, sur europe1.fr pendant que vous êtes en train de nous l'expliquer. Donc, votre problématique, si je résume, c'est trouver un investisseur dans une période qui n'est pas simple, Nathalie Carré.
Oui, tout à fait.
Alors, oui, la période n'est pas simple. La question, c'était investisseur industriel ou investisseur tout court. Les deux ont des avantages et des inconvénients. J'ai envie de vous reposer la question en retour parce que derrière l'investisseur industriel, vous avez aussi une équipe qui peut soutenir et accélérer aussi l'évolution éventuellement de la machine. Derrière l'investisseur tout court, l'équipe, c'est à vous de la constituer. Et quand je pense équipe, je ne pense pas seulement équipe technique de développement de la machine. Vous avez dit la R&D est terminée. Ce qu'on peut voir quand même sur le marché de l'imprimante 3D alimentaire, c'est que en fait, il y a pas mal de développements qui sont envisagés. Il y a déjà des acteurs en place. Mais qu'il faudrait plus qu'une machine, il faudrait une vraie offre de service. Je lisais qu'il y avait, c'était utilisé dans le cadre des réductions de déchets alimentaires, dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'alimentation pour les personnes qui ont des régimes spécifiques, même pour l'espace, pour nos astronautes. Donc là, vous parliez d'une poche à douille automatique, en fait. Est-ce que votre produit peut aller sur ces offres-là? Parce que je crois que vraiment sur ce marché, il y a une question de performance de la machine, bien évidemment. Mais au-delà de la performance, il y a une vraie question d'offre et de proposition de valeur. Au-delà de l'outil, encore une fois, l'outil, c'est souvent au service d'un service rendu, justement, d'une promesse. Mmh. Donc, de votre côté, est-ce que l'investisseur en fait industriel a trouvé, il va vraiment dépendre de si vous voulez plutôt aller vers le sujet du recyclage, les déchets alimentaires, en fait, l'idée, c'est de dire, il y a des déchets qui sont abîmés en les utilisant avec une machine 3D. En fait, on ne voit plus qu'ils sont abîmés puisqu'on reconstitue un plat avec des matières premières. Si la matière première abîmée, c'est pas très grave. Donc, est-ce que vous avez décidé stratégiquement une orientation pour cette machine en termes d'offres?
Alors, d'abord, par rapport à votre proposition, en disant est-ce qu'on cherche un industriel ou est-ce qu'on cherche un financier, on cherche les deux pour que le financier aide l'industriel à développer la machine. On a une première machine qui est sur du chocolat, mais il y a tout un potentiel derrière. On peut passer tout ce qu'on appelle les pâteux alimentaires, et pas que, puisqu'il y a aussi un débouché sur un autre secteur. Et on a commencé par le chocolat, et on est presque prêt pour l'industrialisation. Mais par contre, il y a effectivement plein d'autres choses sur la gestion des déchets. Quand je vous parle du zéro gaspillage, c'est de pouvoir réutiliser des déchets et les imprimer. Et puis,
ce que dit Nathalie, si j'ai bien compris, c'est que pour pouvoir vous indiquer quel est le bon choix, finalement, il faut que vous sachiez dans quelle direction en premier vous voulez aller. Donc, il y a un choix à faire de votre côté.
Parce que vous voyez, quitte à y revenir plus tard, mais je prends un exemple. On parle par exemple des EHPAD. C'est un grand sujet des EHPAD. Et effectivement, les machines 3D permettent de faire de la nourriture molle mais jolie, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sert à nos seniors dans les EHPAD, c'est de la bouillie en fait. Voilà. Et donc là, on peut reconstituer des plats jolis pour les EHPAD. Et on sait à quel point le regard, les yeux, c'est important pour susciter l'appétit. On sait que nos seniors ont besoin de manger. Et donc, l'industriel qui serait peut-être à vos côtés, serait peut-être pas un industriel technique, mais qui serait peut-être un industriel plutôt commercial du côté de grandes chaînes d'EHPAD, par exemple, qui serait prêt à investir à vos côtés. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il y a probablement déjà une direction à choisir et ensuite une stratégie industrielle à mettre en place. Mais vous pouvez pas, votre offre, enfin votre produit, il peut pas servir à tout. Il faut que vous puissiez vous spécialiser dans un secteur et aller chercher l'industriel dans ce secteur-là. Après, les financements classiques, vous avez dans votre région Idéclic, vous avez le prêt d'amorçage BPI France. Donc ça, c'est facile à trouver. Mais il faut que vous fassiez votre choix, en fait. Et choisir, c'est renoncer.
Et choisir, c'est renoncer, effectivement. Nadine, on va rester en contact et puis vous nous direz comment le projet avance, évidemment. On vous soutient en tout cas. Merci Nathalie Carré d'avoir répondu à ces questions. On vous retrouve demain juste avant 14h. Merci à Clara Audry et à vous Elisabeth.
Merci Raphaël.
On se retrouve mardi.
On se retrouve mardi toutes les deux.
Vous êtes là demain.
Et demain, je suis là et on va aider les associations sportives durement touchées par cette crise du coronavirus, comment les sauver? On en parle demain à partir de 13h.
À mardi.
À demain, c'était Raphaël Duchemin sur Europe 1 et dans un instant, vous retrouvez Christophe Ondelat.